DW, le club de l'auditeur.
Les mariages précoces et l'excision étaient cette semaine au centre d'un colloque de 3 jours à Dakar, au Sénégal. On en parle dans cette édition du club des auditeurs et internautes. Mireille Drone au micro, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Bienvenue à toutes et à tous et un petit coucou tout particulier à ceux qui nous envoient de gentils petits mots témoignant de leur fidélité à nos programmes, comme René de la plaine des Gafres à l'île de la Réunion, et merci pour les rapports d'écoute. Également à Yassane de Waïgouya au Burkina Faso, Cher de Dakar au Sénégal, Clément de Comé au Bénin et Christophe de Goma en RDC. Et je n'oublie pas Wilfried de Lomé au Togo et Ousmane d'Amtimam au Tchad qui ont tous les deux fêté cette semaine leur anniversaire. Nos meilleurs vœux à eux. Les chefs religieux ou traditionnels sont invités à renforcer le dialogue au sein de leur communauté religieuse pour remettre en cause les idées reçues de longue date selon lesquelles les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines sont des pratiques acceptables. C'est ce qu'indique la déclaration finale adoptée à l'issue du premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Sommet qui s'est tenu en début de semaine à Dakar, au Sénégal. Plus de 500 membres d'ONG, d'associations de victimes, d'institutions internationales et de responsables gouvernementaux originaires de 25 pays, majoritairement africains, y ont participé du 16 au 18 juin. Ces participants ont estimé que les jeunes filles et les chefs religieux jouent un rôle central pour l'élimination des mutilations génitales féminines et des mariages précoces qui touchent des millions d'enfants en Afrique. Lors des discours de clôture, le numéro 2 de la mosquée Al-Azhar, institution de l'islam sunnite qui siège au Caire, a même prononcé une fatwa qui interdit les mariages précoces, jugeant que l'âge minimum de maturité pour les jeunes filles est de 18 ans. Et selon l'imam sénégalais Abdouaziz Khan, membre de l'Association nationale des imams et ouléma du Sénégal, les mutilations génitales, pratiquées en général avant 7 ans, constituent un danger et une atteinte à l'intégrité physique des femmes. Plus de 200 millions de femmes continuent de subir les effets de cette pratique dans le monde, notamment en Afrique, et quelques 50 millions de jeunes filles risquent d'en être victimes d'ici à 2030, selon un rapport de l'UNICEF de 2016. Selon les organisateurs, à savoir les gouvernements sénégalais et gambiens, ainsi que l'ONG Safe Hands for Girls, fondée il y a 6 ans par une jeune gambienne, même si la tendance est en baisse dans plusieurs pays, eh bien des poches de grande résistance persistent, notamment en Somalie, en Guinée, à Djibouti et au Mali. La résolution de Dakar souligne aussi que les mutilations génitales féminines freinent également le développement des pays, en entraînant des taux élevés de mortalité maternelle liés aux complications engendrées par les mutilations. Hadja Idrissa Ba, présidente fondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée, se bat résolument contre cette pratique. Elle se réjouit certes de cette résolution de Dakar, mais selon elle, il faut beaucoup plus que des déclarations.
C'est un bon point, un très bon point. Mais après, ça sera excellent que seulement si ces leaders religieux qui se sont déplacés de leur pays pour venir à Dakar, parce qu'ils sont montés dans l'avion pour venir, ils ont été logés dans de beaux hôtels, ils ont élaboré des fatwas, c'est très bien. Ils ont compris que les leaders religieux et les jeunes filles ont vraiment une grande place dans l'élimination des mutilations génitales féminines. Il faudrait que ces leaders religieux-là s'engagent au niveau national, au niveau de leur pays, auprès de leurs pairs, à partager cette fatwa-là dans les différentes langues nationales et à donner leur position de la même manière qu'ils l'ont fait au niveau international, qu'ils fassent de même auprès de leurs amis. Parce que je vous assure, je connais les leaders religieux aujourd'hui qui ont représenté la Guinée pour aller là-bas au sommet de l'Union africaine, c'est des personnes qui ne parlent pas ici. ici en Guinée qui se taisent, qui sont seulement devant les médias et qui ne vont pas au niveau de la communauté pour parler au nom des leaders religieux, pas plus tard qu'hier, on était sur le terrain en train d'échanger avec les familles et les femmes sur les questions de mutilation génitale. Elles n'ont pas la bonne information. Elles pensent que c'est une obligation religieuse. Elles pensent que la religion musulmane oblige la pratique de mutilation génitale féminine et que si tu ne le fais pas, tu es condamné à rentrer dans l'enfer. On leur a fait comprendre cela. Qu'est-ce qu'elles nous ont demandé? Qu'est-ce qui vous prouve cela? Est-ce que vous êtes des leaders religieux pour nous dire cela? Mais pourtant, on a des leaders religieux qui sont là-bas et qui ont compris, qui ont fait des déclarations. Mais au niveau pays, qui ne le font jamais avec leurs amis, ou bien même s'ils le font, ils le font dans un groupe restreint. Ils ne vont pas au niveau de la communauté pour partager ces messages, faire des prêches dans les mosquées, dans les églises, parler avec la communauté et pour leur donner les bonnes informations. C'est ça mon souci. Ils ont vraiment peur. C'est un sujet tabou qu'ils n'en parlent jamais.
C'est ça.
Et ça, c'est vraiment... Moi, quand j'entends des fatwas et tout, je dis que c'est encore de la démagogie toujours qui se fait. Parce que ça a toujours été fait. On a combien de fatwas à notre niveau? Combien de fatwas? Tellement de fatwas au niveau de chaque sommet, ça se fait. Mais le problème, il faut descendre sur le terrain, aller sur le terrain, voir les réalités, sensibiliser la communauté, chercher des messages. Par exemple, nous, on a besoin auprès de nous, des jeunes filles, certes, on n'est pas des leaders religieux, mais qu'est-ce qu'on dit? On argumente toujours auprès de la communauté. On dit, bon, voilà, écoutez. Nous, on a échangé avec des imams. Ils nous ont fait croire que c'est cela. Mais à force de dire, certains peuvent croire, certains non. Certains vont dire, bon, c'est parce que c'est notre intérêt, on va le dire comme ça. Mais si par contre, on avait dans notre équipe, on a un leader religieux, on a une femme, on a vraiment des personnes d'influence dans notre équipe et qui acceptent de nous accompagner sur le terrain, de témoigner, de partager les versets coraniques avec les familles et qui vont finir par comprendre petit à petit, petit à petit. C'est ça, moi, je vais appeler un engagement religieux, un engagement concret de la part des leaders religieux. Mais pas que s'arrêter et lire les discours devant les médias sur le plan international et ne rien faire au niveau national. Ça, je ne suis pas d'accord.
Là, vous pensez que ça aura plus de poids. Et c'est valable aussi ce que vous dites pour les mariages précoces, parce que les deux étaient liés là, au centre de ce sommet.
C'est vraiment pareil, quoi. Mais le mariage précoce aujourd'hui, il y a certains qui comprennent. Par exemple, il y a beaucoup de communautés qui comprennent que, bon, voilà, la religion musulmane n'oblige pas forcément la petite fille dès qu'elle a l'âge de la puberté de se marier. Ce n'est pas une obligation. Il y a beaucoup qui comprennent. Mais quand je parle de l'exclusion, c'est vraiment un sujet très, 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 très sensible.
Oui.
Mais le mariage des enfants, quand même, ça va. Dans les mosquées, il y a certains qui en parlent. Ne donnez pas vos filles en mariage si elles n'ont pas 18 ans. Il faut laisser, il faut faire ceci, cela. Il faut les éduquer. Il y a certains qui osent en parler. Certains, pas beaucoup. Minorité. Mais l'excision, ça se fait jamais. Malgré tous les efforts fournis au niveau international, c'est pour cela, des fois, franchement, c'est énervant. C'est choquant ce qui se passe.
Mais justement, tous ces participants, ils ont appelé les États à renforcer la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles pour qu'elles puissent profiter de leur enfance. Ils ont souligné justement que les filles, en particulier les survivantes de mariages précoces, par exemple, doivent être à l'avant-garde de la lutte. Mais est-ce que vous avez l'impression, justement, c'est un petit peu ce que vous disiez, que les femmes, elles peuvent oser? Parce que c'est très difficile aussi. Je sais qu'au Sénégal, il y a des femmes qui, en effet, sillonnent le pays, des jeunes femmes qui essaient de sensibiliser sur les mutilations, ainsi de suite, par exemple. Mais est-ce que dans certains pays, c'est pas difficile? Par exemple, chez vous, en Guinée, vous vous battez, mais ce serait plus facile si vous aviez à côté les imams. Est-ce que c'est pas un peu facile aussi de dire, allez-y les filles, c'est vous qui devez aller sur le terrain pour que ce soit efficace?
Ils vont nous dire d'aller sur le terrain. Mais après, pour que ça soit efficace, très bien, on s'engage à y aller. Eux aussi n'ont qu'à s'engager à leur niveau. Là où ils peuvent, là où ils ont les outils, ils sont prêts à le faire, c'est dans les mosquées, là où ils prêchent. Là-bas, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne peuvent pas, parce que ce sont des vieux, ou bien ils sont âgés, ils n'ont pas l'énergie qu'il faut pour aller sur le terrain, sous le soleil avec nous, il n'y a pas de problème. Mais après, si eux aussi, à leur niveau, ils peuvent nous aider au même moment, que la sensibilisation soit faite au même moment, non seulement que les familles soient averties par les leaders religieux, mais à force de nous voir aussi, elles sont déjà averties, et nous, on est là tout juste pour renforcer. Est-ce que vous voyez?
Bien sûr.
Donc, il faut qu'il y ait vraiment cette intercollaboration entre nous. Et le plus souvent, ce sont les leaders religieux eux-mêmes qui nous insultent et nous qualifient de tout. Et ceux qui vont là-bas, c'est une minorité, c'est 2-3 personnes qui peuvent se faire appeler des féministes. Mais la majorité, ils sont au nombre de combien? C'est des milliers de leaders religieux qui sont dans nos pays. Ces milliers de leaders religieux-là n'ont pas la bonne information, ne sont pas engagés, ne sont pas sensibilisés. C'est ceux qu'on doit toucher, ces personnes qu'on doit toucher. Certes, Si on a compris, il y a des gens qui viennent, des institutions, ils invitent quelques leaders religieux qui viennent parce qu'ils savent qu'il y a des tertiaires, ils savent qu'ils vont payer le transport, ils vont payer leur hôtel, ils vont bien manger. Mmh. Ils viennent, ils vont discuter, ils vont causer. Là, ils sont d'accord. Au retour, ben voilà, personne ne fait quelque chose aussi. Même au niveau national, c'est comme ça que je sais. Mmh. Il y a des ateliers de formation qui s'organisent au niveau national ici. Mais après, il n'y a rien. Au retour, il n'y a rien. Ça ne bouge pas. On ne fait que nous trahir dans ce combat-là. Moi, je vous dis.
Vous avez l'impression vraiment d'être trahi.
On a l'impression d'être vraiment trahi. Ça, c'est de la trahison pure et complète. Mmh. Je commence à parler de ces leaders religieux-là, parce que moi, je connais, par exemple, Elage Bambassi. Elage Bambassi, c'est lui qui répond toujours au nom des leaders religieux sur les questions de mutilation génitale féminine. C'est lui que j'ai toujours connu comme leader religieux. Mmh. Et quand, par exemple, moi, je parle de lui à un leader religieux ici, au niveau communal, au niveau un peu local, je dis, bon, nous, on travaille avec Elage Bambassi, voici ce qu'il nous a fait savoir et tout. Ils sont mal insultés par ces derniers-là. C'est-à-dire, ils disent, bon, ce sont des leaders religieux qui sont payés par des blancs, ce sont des leaders religieux, c'est des escrocs, c'est comme ci, comme ça. C'est parce qu'ils ne sont pas tellement, je pourrais dire, directs avec leurs amis. C'est-à-dire, il n'y a pas une complicité entre eux, ceux qui vont là-bas, ceux qui suivent ces formations et ceux qui sont au niveau local.
Mmh. Mais est-ce que ce n'est pas aussi par peur, tout simplement, de perdre leur pouvoir? Parce que c'est toujours une façon, évidemment, de dire, ce n'est pas notre tradition, bon, c'est les blancs qui nous disent ça. Et est-ce que ça va peut-être changer à partir du moment où il y aura une nouvelle génération? Parce que vous disiez, tous ces leaders religieux, ce sont des vieux monsieur, il va bien y avoir un renouvellement quand même des générations un jour.
Effectivement, mais ma grande, vraiment, moi je dirais que oui, c'est pas peur qu'ils perdent leur pouvoir, mais je suis choquée lorsque je vois la dernière fois j'étais à Dakar. J'étais avec l'association des jeunes religieux musulmans, voilà. Mmh. Ce sont des jeunes, mais je vous dis, ils sont parfaitement d'accord avec la lutte contre le mariage des enfants, la lutte contre le viol des petites filles, mais ils ne sont pas du tout d'accord avec la lutte contre l'exclusion. Mmh. Pourtant que c'est eux, nous on a confiance, parce que nous on va pas grandir, on va pas être des leaders religieux. Par exemple, nous les activistes, on va pas rester dans les mosquées pour prêcher quand nous serons grands. Mmh. Mais par contre, il y a certains qui se forment dans ce domaine-là. Mais ces mêmes jeunes-là, ce sont eux qui reçoivent, c'est-à-dire qui disent, bon voilà, on va suivre ce que nos aînés ont fait. Eux, ils n'ont jamais lutté contre la mutilation génitale, on va jamais le faire aussi. Donc moi je dirais que si les leaders religieux veulent vraiment s'engager, alors... S'ils n'osent pas, c'est-à-dire leur génération, ancienne génération là, ils peuvent aller vers les petites générations qui sont en train de grandir, former ces gens-là, les informer, les donner des bonnes informations, afin que ça puisse vraiment changer à la longue. Ça, c'est une proposition très stratégique que eux, par contre, ils pourraient faire. Mmh. Mais si ces jeunes aussi grandissent avec ces mêmes idéologies, ce qui veut dire, nous allons mourir dans ça. C'est-à-dire, nous, on est nés, on a trouvé ça, on va mourir dans ça encore, on va laisser encore les mêmes problèmes. Donc, on risque de ne pas bouger, quoi, bouger du petit doigt. Mais moi, je sais qu'on s'attend vraiment que ces vacances-là, lorsqu'on va commencer à arrêter des... Vous savez ce qu'on nous a dit lorsqu'on était hier au marché, avant-hier au marché? On était en train de sensibiliser les femmes qui se croyaient religieuses. Mmh. Elles nous disent, attendez-nous, vous êtes en train de nous empêcher d'exciser nos filles. Lorsque vous verrez des leaders, en fait, les musulmans au dehors, se révolter contre vous, qu'à ce moment, vous saurez jusqu'où ce que vous êtes en train de faire nous emmerde.
Mmh.
Voici ce qu'elles nous ont répondu. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y aura encore, c'est-à-dire, si on continue, ils essayent de nous intimider déjà, nous menacer.
Oui.
Il y aura une forte mobilisation des musulmans qui vont sortir pour vraiment déclencher une marche contre nous, contre ce qu'on est en train de faire. Et nous, on nous a insultés. On nous dit, mais attends, j'ai exigé avec des mots insolents. On est venu vers certaines femmes qui disaient, est-ce que vous-même, elles nous demandent, est-ce que vous-même vous êtes excisés? Mmh. On a répondu carrément avec la tête sur les épaules. Oui, nous sommes excisés. Nous sommes excisés, c'est parce qu'on connaît pourquoi. On connaît la chose, c'est pourquoi on vient vous parler. Une personne qui n'est pas victime ne peut pas venir vous parler d'un sujet qu'elle ne connaît pas.
Bien sûr.
On a été victime, c'est pour ça qu'on est venu vous en parler. Elles nous ont dit, bon, écoutez, vous savez c'est quoi les filles? Moi, j'ai vraiment, j'ai une petite zone de tension. J'ai qu'elles sont malades, elles ne se sentent pas bien, de dégager devant elles. On a dit, ok, il n'y a pas de problème, on vous laisse nos numéros de téléphone, en tout cas, on vous prévient. Mais le jour que ces femmes-là feront ça, elles ne diront pas qu'on ne les a pas prévenues, parce que nous, on fera, heureusement, on est protégé par la loi. Mmh. Et la loi nous protège. Et on fera en sorte que cette loi soit appliquée. Personne ne pourra nous arrêter. Un leader religieux ne va pas venir s'arrêter devant nous. Ni une femme, ni une personne, je ne sais pas d'où elle vient, ne pourra nous arrêter. Parce que pour nous, personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est ça l'action concrète, c'est ce qu'il faut. Il faut que les leaders religieux sachent que s'ils ne partagent pas les bonnes informations, ça va vraiment choquer. Parce que nous, on est engagés à mettre fin à cette pratique-là, par tous les moyens qu'il faut.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
que d'un autre côté, il faudrait que vous soyez aussi épaulé, par exemple, par les institutions, par l'État, par les ministères de l'éducation, de la santé, ainsi de suite, parce que les participants ont souligné aussi le besoin de s'attaquer aux questions, justement, d'éducation, de santé, de pauvreté, tout ça, en prenant, justement, au cas par cas, les situations, pas de façon générale, parce que dans chaque pays, les choses sont un petit peu différentes, mais de prendre, justement, les réalités sur le terrain en compte. Et est-ce que vous pourriez compter, par exemple, sur... D'une part, le ministère de l'Éducation, pour qu'on en parle dans les écoles, sur le ministère de la Santé, pour que partout, au niveau des médecins, des hôpitaux, tout ça, on parle de ça, qu'il y ait des campagnes aussi, par exemple, pour pouvoir soutenir, si vous ne pouvez pas compter tout de suite sur les imams.
Absolument. Vous savez ce qu'on nous a dit, certaines femmes qui étaient d'accord avec nous, elles nous ont confié, elles nous ont dit, les filles, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. On s'est retrouvés, elles ont fait des témoignages. Elles ont dit, je me suis retrouvée dans vos histoires. Je me suis retrouvée dans les conséquences que vous êtes en train de faire. J'ai su maintenant que c'est à cause de l'exclusion qu'aujourd'hui, je suis comme ci, comme ça, j'ai des infections, j'ai telle maladie, j'ai ça et ça. Voilà. Vous savez ce qu'elles nous ont dit? Elles nous disent, les filles, je vous conseillerais plutôt d'aller vers les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a des docteurs qui sont en train d'exciser les petites filles. Donc, allez-y, dites aux docteurs d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup de gens aujourd'hui fuient. Dire, bon, ils vont fuir la tradition, de toute façon, ça se faisait, et aller vers les hôpitaux pour que les docteurs le fassent. Oui. Nous, on a été voir le ministère de la Santé, le ministre de la Santé. On l'a demandé, il n'y a même pas quelques mois, on l'a demandé, monsieur le ministre, il y a quelques années, quand vous n'étiez pas là, l'ancien ministre qui était là, il avait fait une communication à la télé, il a dit que s'il attrapait un docteur en train de pratiquer cela sur une fille, que ce docteur-là sera démis de ses fonctions, surtout les fonctions publiques. On l'a demandé de faire pareil et qu'il sera puni. On l'a dit de le faire pareil aussi parce qu'on a l'impression que les gens sont en train d'oublier ce communiqué-là, de refaire la même chose encore.
C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, personne n'a été puni jusque-là par la loi, par exemple?
Nous, on n'a pas vu. Ils sont en train de raconter qu'il y a eu des cas qui ont été punis. Mais nous, on n'a pas vu d'abord. On est là. Vous savez, quand tu es sur le terrain, on te dit tout. Il y a un monsieur qui nous dit, ben, vous êtes en train de nous dire d'arrêter ça. Est-ce qu'on a même arrêté quelqu'un ici qui a activé sa vie? Vous dites toujours d'arrêter, d'arrêter. Pourtant, vous n'appliquez pas la loi. On va le faire. Voici ce qu'on nous répond. Ce qui veut dire que la loi n'est pas appliquée.
Oui, ça reste de la théorie. Et donc, tout le monde peut continuer en se disant que c'est sûrement pas si grave que ça, puisqu'il n'y a pas eu de sanctions réellement qui soient dissuasives.
Ah oui, absolument. C'est ça. Vous savez, Nous, moi, j'ai l'impression que... Nous, on est vraiment sincères dans le combat qu'on est en train de faire.
Oui.
On ne mène pas ce combat pour de l'argent ou bien pour quelque chose. Et on veut réussir ce combat-là. Mais nous, on a l'impression que les autres parties prenantes sont dans ce combat pour des intérêts. Ils sont dans ce combat pour avoir des moyens parce qu'ils savent qu'il y aura des projets. Il y a des salariés, il y a des opportunités. Ils sont là pour ça. Il y a le ministère de la Famille. Qu'est-ce qu'eux, ils font pour ça? Que des discours, des politiques et des programmes, ils sont toujours dans ça. C'est des questions de documents et tout. On a toujours passé, ils ont passé tout le programme dans ça. Et après, ils sont témoins de ce qui se passe sur le terrain. Ils n'ont jamais mis la main sur une femme qui est en train d'exciser des filles pour dire que bon, voilà, on va la présenter à la télé. Elle a excisé ces petites filles-là. On va la punir.
Oui. Et expliquer surtout. Et expliquer pourquoi. Expliquer que c'est dangereux. Expliquer que les femmes risquent leur vie et toutes les conséquences.
Effectivement, regarde la Journée internationale de la femme cette année-là. C'est ridicule, hein? Au lieu de profiter pour parler des problèmes auxquels font face les femmes, le ministère était là pour danser, faire de la mamaya, mais aussi pour chanter la gloire aux femmes, chanter les femmes, dire que les femmes sont courageuses, les femmes sont fortes, voici les femmes de telle localité, elles travaillent, elles font ceci, cela, les femmes de tel ministère. C'était que ça. C'est seulement quand le président est venu, il a parlé du mariage d'enfants, il a parlé de l'excision. Ça, c'est en deux phrases qu'il a parlé. Mais en cours de tout, dans tous les discours, personne n'en a parlé, sauf aussi le représentant des Nations Unies. Mais aucune fille, aucun jeune n'est venu, ou aucune femme n'est venue faire un discours sur les mots auxquels elle souffre. Personne. Moi, je sais vraiment quoi dire maintenant.
Mais parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont honte. Enfin, c'est difficile de parler de ça.
Non, ce n'est pas une question de honte, c'est une politique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces ministères-là sont politiques. Ce sont des ministères qui veulent rendre tout beau. Nos discours ne sont pas bienvenus parce qu'ils savent que nous, on dénonce, on dit ce qui ne va pas. Mais ils veulent toujours rendre très beau les choses. Dire que bon, voilà, tout va bien, les choses sont en train de marcher, petit à petit, ça va aller. C'est une question générationnelle. Tu vois, non, c'est ce qu'ils mettent dans leur tête et faire la fête. Moi, je dis que tant qu'il n'y a pas 97%, je dirais 1% des filles qui sont excisées, le combat encore reste. Encore, il demeure encore un combat dur parce que tant qu'on n'a pas zéro cas d'exclusion, on doit mener le combat. Il ne faut pas se réjouir d'une réduction d'1%, ça ne va toujours pas. On reste encore le deuxième pays sur le plan mondial à pratiquer la mutilation génitale féminine.
Oui.
La dernière fois, on était autour d'un plateau à la RTG, la Radio-Télévision Nationale de Guinée. Il y avait le ministère de la Femme qui devait présenter leurs acquis, c'est-à-dire voici ce qu'ils ont fait. Et nous, on était en face d'eux en tant qu'ONG. Ben, moi, j'ai dit carrément la vérité, je dis écoutez-moi, mais on ne doit pas faire la tête, on ne doit pas se réjouir de ce petit résultat-là. Ce n'est pas un résultat, élaborer des politiques ou bien mettre en place des structures qui ne fonctionnent pas ou vraiment se réjouir de la réduction d'un seul pourcent, mais je vous dis que ça ne va pas. Certes, le bateau vient de bouger, il faut que tout le monde puisse monter afin d'arriver à destination. Si on fait la fête au beau milieu de la mer, on risque tous de mourir, quoi. L'essentiel, qu'on dise la vérité, ils n'ont qu'à nous accompagner. On les aide à réaliser leurs objectifs. S'ils nous accompagnent, ça, c'est les objectifs de toute une nation. Nous avons des objectifs des ODD. Donc, pour réaliser cela, pour rendre cela effectif, il faut qu'on se donne les mains. Il ne faut pas qu'on mette une entité de côté parce que nous sommes jeunes, on pense qu'on n'est pas capable. Il n'y a pas de problème. Nous, on va continuer à faire nos actions. Grâce à nous, aujourd'hui, les gens ont peur de marier les petites filles. Et l'exclusion, ça commence cette année-là. Et nous avons déjà commencé à alerter.
Et est-ce que vous travaillez peut-être avec d'autres pays, puisque vous disiez que, évidemment, la Guinée, votre pays, est un des pays les plus touchés. Est-ce que vous avez travaillé peut-être avec d'autres pays qui ont réussi à avancer davantage pour profiter de leur expérience ou pour avoir un soutien tout simplement déjà aussi moral, serait-ce que ça?
On travaille en consortium dans des réseaux avec, par exemple, le réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone, selon des priorités aussi, la lutte contre les mutilations génitales. Quand je prends le réseau Afrian Guinée aussi, c'est une des priorités. Nous, les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, moi je prends toujours l'exemple sur le Sénégal.
Oui.
Le Sénégal est un pays très conservateur mais qui a pu au moins avoir des résultats positif parce que nous, on se cale toujours par la tête, on est venu, c'est la tradition, c'est la coutume, il faudra respecter et tout. Mais il y a plus conservateur de tradition que le Sénégal ou le Mali.
Justement, oui, voilà.
C'est des pays très conservateurs, mais pourquoi nous hein? Donc, on a des enseignants-chercheurs ici en Guinée, on essaie vraiment de passer par tous les moyens pour avoir ces bons exemples de ces différents pays-là et puis amener cela en Guinée afin de changer les choses.
Et faire aussi les sensibilisations en langue locale, bien sûr.
Effectivement, on le fait en langue locale. Donc, par exemple, moi, je parle le poulard, il y a une qui parle malinké, il y a plusieurs, toutes les filles, chacune au moins parle deux langues locales. Donc, ça, c'est vraiment un avantage, un atout pour nous. Le terrain, c'est ce qu'on fait, quoi.
C'était Hadja Idrissa Ba, présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Notez que les participants au sommet de Dakar ont appelé les États à renforcer la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles afin qu'elles puissent profiter de leur enfance. Il faut placer les filles au cœur du débat sur les changements sociaux et s'attaquer aux questions d'éducation, de santé et de pauvreté, souligne les signataires. Voilà, n'hésitez pas à réagir à cette émission ou surtout au sujet qui retient votre attention et dont vous aimeriez parler. Vous pouvez m'envoyer par exemple un mail à l'adresse suivante mireille.drone@dw.com. Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter notre site internet en tapant dw.com/français, sans cédille bien sûr. Vous y retrouverez tous nos journaux d'actualité et nos magazines à télécharger dans la rubrique médiathèque. Et puis les liens aussi vers nos pages Facebook et Twitter qui vous permettront également de communiquer avec nous. Sur ce, merci de votre fidélité, dans l'attente de vos nouvelles. Bonne continuation et excellent week-end à tous. Au revoir. Matna ko man, bulian yakhe atu.